Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Merci pour votre accueil chaleureux. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Comme je disais à certains amis avant le début de la réunion, j'ai l'impression, même si je n'ai jamais été membre de cette église, d'être un peu de retour à la maison quand je viens ici. C'est sûr que je vois des collègues chers de la faculté, pas mal d'étudiants aussi de la faculté. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que vous êtes vraiment une église très attachée à l'Écriture. Et c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Et en tant qu'enseignant, ça nous donne une joie, un bonheur particulier de pouvoir apporter la parole parmi vous. Il arrive que de grands revirements de situation dans la vie attirent l'attention des médias. Sur le plateau d'une émission de télé coréenne consacrée aux jeunes talents, un jeune homme de 22 ans vient pour chanter. Sur scène, avant de s'exécuter, il décrit brièvement son parcours en réponse aux questions que lui posent les membres du jury. Recueilli dans un orphelinat à 3 ans, il s'est enfui de cet endroit à 5 ans après y avoir été battu. Pendant 10 ans, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, il a vécu seul. Il vendait des friandises, des chewing-gums et des boissons énergisantes dans la rue. Il dormait parfois dans les toilettes publiques. Il n'a pas été scolarisé avant d'atteindre l'âge de la fin du secondaire. Puis ce jour-là, les premières notes de l'accompagnement musical se font entendre. Il commence à chanter. Et sa vie bascule. Il a une voix d'or. Les membres du jury sont en pleurs, la foule est en délire. La présidente du jury lui dit qu'elle a envie de le serrer dans ses bras. À sa sortie de scène dans les coulisses, les animateurs de l'émission lui prédisent que dès la diffusion du programme, 50 millions de Coréens vont l'acclamer et devenir instantanément ses fans. Il était sans abri, il est maintenant une star. Mais ce ne sont pas que les histoires touchantes de ce genre qui sont médiatisées. Parfois, le revirement se fait dans l'autre sens. Comme avec Bernard Madoff, tristement célèbre en tant que fraudeur américain, ex-PDG d'une grande société d'investissement de Wall Street. En 2008, il a été arrêté et mis en examen par le FBI pour escroquerie. La somme impliquée était de 65 milliards de dollars. En 2009, il a été condamné à 150 ans de prison, donc le maximum prévu par la loi américaine. Un homme richissime condamné à 150 ans de prison. Eh bien, notre texte de ce matin met en scène deux revirements de situation spectaculaires. D'une part, il y a une belle histoire qui est racontée plutôt sobrement. Et d'un autre côté, il y a littéralement une descente aux enfers qui est davantage détaillée. Alors, j'aimerais lire en Luc chapitre 16 la parabole de Jésus qui se trouve dans les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Père, nous te demandons de nous parler par cette parabole de Jésus, de toucher notre cœur par l'action de ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Amen. Alors, je vous propose 3 grandes questions ce matin pour structurer ce message. Premièrement, que dit le texte? Deuxièmement, quel est le message de Jésus pour ses auditeurs? Et troisièmement, quel est le message de Dieu pour les lecteurs de Luc? Donc, première grande question, que dit le texte? Et on va consacrer plus de temps à cette première question parce que le texte nous dit beaucoup de choses. On peut diviser le texte en 3 scènes. La scène 1, qui se déroule sur terre, pourrait s'intituler « Deux hommes, deux extrêmes sur le plan socio-économique » dans les versets 19 à 21. Donc, il y a un homme riche et un pauvre, ou pour être plus précis, un homme excessivement riche et un autre extrêmement pauvre. Verset 19, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. » Commençons par l'homme riche. Il s'habillait de pourpre et de fin lin. Le temps du verbe suggère qu'il s'agit là d'une habitude, ce n'est pas une tenue pour une occasion spéciale. Et le mot « pourpre » fait référence ici aux vêtements de dessus à l'époque, au manteau qui était teint de cette couleur rouge vif. La teinture en question, elle était extraite d'un mollusque et de tels vêtements étaient clairement réservés aux plus grands de la société. À notre époque, l'équivalent, ce serait peut-être des vêtements réalisés sur mesure par les plus grands couturiers. Le fin lin désigne quant à lui les vêtements de dessous, qui était confectionné avec cette matière particulièrement somptueuse, sans doute importée d'Égypte ou d'Inde. Autrement dit, même ses sous-vêtements sont des œuvres d'art. Ensuite, il faisait chaque jour la fête et menait brillante vie. Et encore une fois, ce n'est pas l'exception qui est décrite, mais c'est la règle, c'est le quotidien, l'habitude. C'est bien ce qu'il faisait chaque jour de la semaine. Au quotidien, il avait pour seule préoccupation de se faire plaisir, comme on dirait aujourd'hui, sans regarder à la dépense, parce qu'avec son budget illimité, il pouvait laisser libre cours à tous ses désirs. Donc, vêtements magnifiques, fêtes quotidiennes, rien à voir avec l'autre personnage. Au lieu des vêtements de luxe, le pauvre, lui, il est couvert d'ulcères, de plaies purulentes. Par contre, il avait un nom, celui-là. Il s'appelait Lazare. C'est la forme grecque d'un nom hébreu, Eléazar, qui signifie « Dieu aide » ou « Dieu porte secours ». Et c'est le seul personnage d'une parabole de Jésus qui porte un nom. C'est important, c'est significatif, on va y revenir. En revanche, il n'avait pas du tout accès à l'abondance du riche. Il était couché à son porche devant le portail de sa villa, donc il est tenu à l'écart, on peut même l'imaginer visuellement, il est tenu à l'écart des festivités. D'ailleurs, verset 21, il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, donc des miettes, ça aurait déjà été apprécié. Alors que l'homme riche organisait des festins extravagants, lui avait faim. Il manquait du nécessaire. Enfin, les chiens venaient lécher ses ulcères. Et là, on ne parle pas ici de petits chihuahuas très mignons. de Golden Retrievers. Non, ce ne sont pas des chiens domestiques, mais probablement plutôt des chiens errants, considérés impurs à l'époque. Et ça, c'est le summum de sa misère, c'est l'humiliation suprême. Apparemment, il n'est pas en mesure de les éviter, ces chiens. Il est peut-être infirme, ce qui expliquerait aussi qu'il est couché. Quelques remarques sur cette scène initiale. Alors, même si le pauvre est décrit plus longuement que le riche ici, tout tourne déjà autour de l'homme riche. C'est-à-dire que le pauvre, il est considéré du point de vue de sa relation au riche. Il est couché à son porche. Il désire ce qui tombe de sa table. D'emblée, Jésus indique que l'accent de la parabole sera mis sur l'homme riche et non pas sur le pauvre. Même quand on veut décrire Lazare, on est obligé de parler du riche. Autre remarque, pour l'instant, il n'a pas été question explicitement des vertus de Lazare ni des travers de l'homme riche. Pourtant, on commence déjà à se faire une petite idée de ce qui se passe vraiment en eux. Lazare porte un nom, Dieu aide, qui pourrait décrire son état d'esprit. Il vit dans la dépendance envers Dieu. Quant à l'homme riche, son train de vie, quand on lit ça, ça paraît excessif. Et surtout, il ne semble absolument pas se soucier de Lazare, qui vit pourtant tout près de lui, mais qui se trouve complètement exclu de sa propriété. Donc Lazare ne peut même pas profiter des restes de ses festins quotidiens. C'est révoltant. Ça aurait été si facile pour le riche de donner un petit coup de pouce à Lazare, qui est dans une souffrance constante. Mais il est clair que Lazare, il est volontairement tenu à distance. On devine la dureté du cœur de l'homme riche. Il est un peu comme le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain, aussi dans l'évangile selon Luc, qui, quand ils voient l'homme à demi-mort sur le chemin, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent devant sans s'arrêter. Une telle insensibilité de la part du riche, ça fait d'ailleurs résonner le nom de Lazare avec une force particulière. Celui que l'homme riche refuse d'aider bénéficie de l'aide de Dieu, malgré les apparences. Alors la scène 2 fait la transition entre la terre et l'au-delà. On pourrait l'intituler « Deux décès, deux statues renversées dans l'au-delà », versets 22 et 23. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Alors les deux hommes ont enfin quelque chose en commun. Ils meurent. Et oui, la mort, c'est l'une des deux certitudes de la vie, comme vous le savez, avec les impôts. C'est d'ailleurs pour bientôt, ne l'oublions pas. Mais si les deux hommes meurent à peu près en même temps, leurs chemins ne font que se croiser, comme le dit un commentateur François Beauvon. Leurs chemins se croisent tout simplement. Et ce nouveau tableau est également peint par contraste marqué. Il y a des oppositions, un peu comme avec la première scène, sauf que là, la répartition des teintes, si je peux m'exprimer ainsi, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que les couleurs vives et les couleurs ternes ne sont plus attribuées au même personnage. Pour chacun, il y a un revirement complet de situation. Celui qui n'avait rien accède maintenant à la consolation et celui qui disposait de tous les plaisirs, eh bien, il est maintenant en proie au tourment. D'abord le pauvre. Le texte nous dit qu'il mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Alors que sur terre, il était cruellement exclu de la demeure du riche, il est maintenant accueilli, intégré, accueilli dans la présence même d'Abraham. Alors que sur terre, il était réduit au contact humiliant avec des chiens errants et impurs, il a maintenant droit au contact réconfortant d'Abraham lui-même. La notion du saint d'Abraham suggère une proximité affectueuse, comme le disciple que Jésus aimait était placé à table contre le saint de Jésus lors du dernier repas en Jean 13, 23. Eh bien, Lazare se retrouve sur le saint d'Abraham, donc tout près d'Abraham. Dans la culture québécoise, on dirait peut-être que c'est lui, Lazare, qui reçoit le hug d'Abraham. Contact affectueux, l'accueil sans réserve. Ensuite, le riche. Alors lui, il est enseveli, contrairement aux pauvres, parce qu'il en a les moyens. Donc, il y a des funérailles. En revanche, il n'est pas porté par les anges. D'après le verset 23, il se retrouve non pas sur le sein d'Abraham comme Lazare, mais plutôt dans le séjour des morts, dans l'Hadès. Et dans le judaïsme de l'époque, l'Hadès désignait souvent un lieu de tourment qui était réservé aux défunts rebelles à Dieu. C'est le cas ici, c'est le lieu de condamnation qui est le contraire total du sein d'Abraham. Verset 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Quel renversement de destin !» Lui qui avait l'habitude de festoyer tous les jours, sans regarder à la dépense, il est maintenant en proie au tourment. Il passe d'un extrême à l'autre, d'une abondance de plaisir à une douleur, à une souffrance insupportable. Par ailleurs, il voit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Lui qui sur terre ne faisait jamais attention à Lazare, là, il le remarque. Il le voit enfin. Et pour cause, cette fois, c'est lui le riche qui se trouve exclu de la zone de privilège. Il voit Abraham et Lazare de loin. Alors sur terre, c'est Lazare qui était loin, qui était toujours loin de l'action, loin de la fête, loin du bonheur. Empêché de franchir le porche de la demeure du riche, mais dans l'Hadès, l'homme riche est éloigné et tenu à distance du sein d'Abraham. Enfin, la scène 3 se déroule dans l'au-delà, et je l'intitule « Deux demandes, deux refus catégoriques », versets 24 à 31, et c'est maintenant sur le riche que se braquent les projecteurs. On va se concentrer sur lui. Il s'adresse à Abraham. Alors, sa première demande, c'est que sa souffrance soit allégée. Verset 24, il s'écria, puisque Abraham est loin, donc il doit s'écrier. « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Alors, il se donne tout à coup des airs très religieux. « Abraham, mon père !» Comme s'il se souvenait soudainement de tout ce qu'il a appris à l'école du dimanche, ou à la synagogue dans son cas. Toutes les histoires sur Abraham lui reviennent soudainement à l'esprit, les dessins qu'on coloriait avec la barbe du patriarche. Mais le lecteur attentif de Luc se souvient que Jean-Baptiste avait dit en Luc 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père ». Nous avons Abraham pour père. Sans repentance, ça ne vaut pas grand-chose. L'homme riche poursuit « Aie compassion de moi ». Tiens, tiens. Celui qui, sur terre, n'a eu compassion de personne, lance tout à coup un appel à la compassion. Soudainement, il s'intéresse à ce beau thème de la compassion. Ça devient pertinent. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Il connaît Lazare. Il connaît son nom. On peut donc en déduire que c'est de manière délibérée, c'est intentionnellement qu'il l'ignorait sur terre. En réalité, il était au courant de ses besoins. Alors, cette première demande, elle est intéressante et je dirais qu'elle paraît même un peu modeste. Il ne demande pas la lune. D'ailleurs, dans l'Hadès, je ne sais pas comment vous pouvez demander la lune, mais il ne demande pas, par exemple, d'être transféré sur le sein d'Abraham. Sa requête est beaucoup plus réaliste. Il souhaite bénéficier d'un petit soulagement, quelques gouttes sur sa langue, pour diminuer un instant sa souffrance. Est-ce que ça veut dire qu'il a soudainement compris qu'il mérite d'être là où il se trouve et qu'il ne peut espérer rien de plus qu'un petit allègement de sa peine? Alors, je ne pense pas que ce soit ça ce que Jésus veut souligner ici. En réalité, cette première demande, elle est pleine d'ironie quand on y pense, parce que les gouttes d'eau qu'il désire ardemment font penser à quoi? Aux miettes qui tombaient de sa table et qu'il refusait de donner à Lazare. Et oui, donc les rôles sont inversés. Ce qu'il veut maintenant que Lazare fasse pour lui, c'est ce que lui aurait pu faire si facilement pour Lazare sur terre, lui donner un petit coup de pouce, tout simplement. Que répond Abraham à cette première demande, verset 25? Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Alors, en clair, c'est non. L'homme riche essuie un refus catégorique. Certes, Abraham l'appelle « mon enfant », donc il reconnaît qu'il y a quand même un lien de sang qui les rapproche, mais tout le reste les éloigne. Abraham refuse d'envoyer Lazare vers le riche pour deux raisons. D'abord, par équité, verset 25, l'inversion des rôles qui vient de s'opérer, elle est tout à fait juste, tout à fait équitable. Le riche doit réaliser que puisqu'il a choisi de jouir égoïstement de la vie sur terre, il doit maintenant payer la facture et souffrir. Il récolte ce qu'il a semé. Lazare, au contraire, il n'a connu que des malheurs dans l'ombre du porche, du portail du riche. Il a maintenant droit à la consolation. Alors, une petite précision, c'est vrai que si on extrait ce verset de son contexte, hein, le verset 25, on peut avoir l'impression que le riche, il est damné seulement à cause de sa richesse et que le pauvre, eh ben, il a gagné son ciel par sa pauvreté. Mais ça n'est pas ce que nous dit Jésus. Et on ne peut pas faire abstraction du reste de la parabole. D'ailleurs, Abraham lui-même, qui refuse de donner au riche ce qu'il demande, eh bien, Abraham était un homme sur terre qui était riche. Il y avait de grands biens et ça n'a pas posé problème, au contraire. Alors, il faut plutôt percevoir que Lazare représente dans cette parabole tous les pauvres qui se confient en Dieu. Et que l'homme riche représente tous les riches qui vivent sans se soucier de leur prochain. Autrement dit, la pauvreté ne sauve personne et la richesse n'est pas mauvaise en soi. Par contre, Jésus rejette clairement au verset 25 la théologie de la prospérité de l'époque qui était présente dans certains milieux juifs et qui affirmait que les riches étaient visiblement bénis de Dieu alors que les pauvres étaient maudits ou abandonnés de Dieu ou punis. Et cette théologie de la prospérité, malheureusement, on la retrouve encore aujourd'hui dans certains milieux. Alors, l'autre raison pour laquelle Abraham dit non, elle est topographique, pour ainsi dire. Il y a un grand gouffre qui empêche de passer du sein d'Abraham à l'Hadès, ce que Lazare devrait faire pour venir soulager le riche, et c'est également impossible de circuler dans l'autre sens, donc aucun pont ne peut être jeté entre les deux bords. Il y a séparation. Autrement dit, le renversement auquel on vient d'assister, c'était le dernier renversement. À partir de maintenant, il n'y aura plus de renversement de situation pour l'homme riche ou pour Lazare. Leur destinée, elle est fixée à jamais et la résurrection à venir ne fera que confirmer cette destinée. Mais le grand gouffre joue un autre rôle intéressant dans la parabole. Il rappelle le porche ou le portail qui séparait Lazare de la maison du riche au verset 20. Alors ici, c'est la différence qui frappe. Alors que l'homme riche aurait pu facilement permettre à Lazare de franchir le porche de sa propriété, il est désormais impossible de franchir le gouffre. Donc, comparaison entre le porche et le gouffre, mais différence importante. La seconde demande du riche, c'est que ses frères soient prévenus de ce qui les attend aussi. Verset 27, le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. Qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans l'Hadès, le riche, d'une certaine manière, il est devenu un élève modèle, il a bien appris sa leçon, dispensée par Abraham, et il en tient compte quand il formule sa deuxième requête. Si Lazare ne peut pas venir vers moi, peut-être qu'il peut au moins retourner sur terre. Et il essaie de tirer le maximum de ce qui reste malgré tout possible, de ce qui reste possible. Il est quand même curieux qu'il s'intéresse tout à coup à ses cinq frères, et d'ailleurs c'est assez rigolo quand on lit ce que disent les différents commentateurs de Luc de ce point, qui se prononcent sur son attitude. Pour les uns, eh bien, l'homme riche fait enfin preuve d'un peu de compassion, il se soucie enfin des autres, alors que pour les autres, il est toujours aussi égoïste, parce qu'il ne se préoccupe que de la maison de son père. Donc c'est finalement une forme d'égoïsme familial. Qui a raison? Est-ce qu'il s'est un peu amélioré? Ou est-ce qu'il est toujours le même? Je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse Jésus ici. Désolé de vous frustrer. Mais ce qui importe à Jésus au verset 27 et 28, me semble-t-il, c'est de faire intervenir dans cette parabole des personnages pour qui il n'est pas encore trop tard pour se repentir. Et ça, c'est la grande différence entre les frères et l'homme riche. Des personnages qui sont comme l'homme riche, donc qui partagent, on va dire, sa philosophie de la vie, mais qui sont toujours vivants. Et ses frères sont tout désignés. Et eux, contrairement à lui, eh ben, ils ont encore un peu de temps pour réagir à l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour avertir ceux qui peuvent encore éviter de se retrouver également dans ce lieu de tourment. Et en passant, l'homme riche, il ne demande pas que Lazare ressuscite d'entre les morts, mais seulement qui se manifeste sur terre. Alors juste une petite apparition fantomatique. Il se dit, peut-être que ça ferait la job. Hein. Lazare, en revenant, c'est tout ce qu'il propose. Réponse d'Abraham, verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, non. La raison en est simple, un fantôme n'apporterait rien de plus que Moïse et les prophètes. Et le fantôme ne serait pas davantage écouté qu'eux. Les frères connaissent déjà le message que Dieu leur adresse, l'Ancien Testament qui est lu régulièrement à la synagogue, qui leur demande de faire usage de leurs biens avec générosité, avec compassion. Alors pourquoi envoyer un revenant pour leur répéter exactement le même message ? Ça n'a pas d'utilité. Et ce qui est sous-entendu dans la réponse d'Abraham, c'est que les frères, comme l'homme riche d'ailleurs, ont surtout un problème de disposition intérieure. On n'a pas affaire ici à un souci de communication. Ce n'est pas la forme de la révélation divine qui est déficiente, ce n'est pas l'Écriture, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. Mais c'est le cœur des auditeurs et leur volonté qui pose problème. Jésus a déjà indiqué au cours de son ministère que les signes miraculeux que lui accomplit ne changent absolument rien quand le cœur n'est pas réceptif. Mais suite à ce nouveau refus, eh bien, l'homme riche insiste. Il réitère, il répète sa seconde requête, verset 30, l'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Alors pourquoi est-ce qu'il s'entête à demander de nouveau ce qui lui a été refusé une première fois? Parce qu'il est convaincu que sur ce point précis, Abraham a tort. Bon, il faut quand même se lever de bonne heure pour contredire Abraham, mais il est vraiment convaincu de son affaire, parce que la preuve, c'est lui, l'homme riche. Lui avait Moïse et les prophètes, il avait l'Écriture à sa disposition et ça n'a absolument rien changé pour lui. Ses frères ont donc besoin de quelque chose de plus que l'Écriture pour se repentir, un petit extra. Mais de la même manière que le riche campe sur ses positions, Abraham ne change pas non plus d'avis. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait ou ressuscitait d'entre les morts. Waouh ! Abraham est en train d'affirmer, non seulement l'apparition d'un revenant ne changerait absolument rien à leur état d'esprit, mais en plus de ça, tes frères resteraient insensibles, même à l'apparition d'un ressuscité. Et pourtant, un ressuscité, c'est beaucoup plus convaincant qu'un simple revenant. Il est dans son corps glorieux. Et bien entendu, quelqu'un allait effectivement ressusciter quelque temps après, se relever d'entre les morts. Et il ne s'appelle pas Lazare. À maintes reprises dans l'Évangile selon Luc, Jésus annonce par avance sa propre mort, sa propre résurrection, et il le fait ici avec subtilité. Les pharisiens qui l'écoutent ne se rendent compte de rien, mais Luc et ses lecteurs savent de quoi il est question. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Même ma propre résurrection ne convaincra pas les personnes qui font le choix de s'endurcir. Et le livre des Actes, donc la suite, le tome 2 de l'œuvre de Luc, l'illustre bien, le montre à plusieurs reprises. Que dit le texte ? Pour terminer cette première partie, la partie la plus longue de cet enseignement. Alors quand on tient compte de l'accent qui est mis sur l'homme riche, on pourrait résumer le texte en disant ceci, « À moins qu'ils ne se repentent, les riches qui ne vivent que pour eux-mêmes et qui ignorent la révélation divine, seront exclus à jamais de la félicité éternelle. » Je répète, à moins qu'ils ne se repentent, les riches qui ne vivent que pour eux-mêmes et qui ignorent la révélation divine seront exclus à jamais de la félicité éternelle. Deuxième question, très rapidement, celle-là. Quel est le message de Jésus pour ses auditeurs à l'époque ? À qui est-ce que Jésus s'adresse au juste ? Alors, certainement à un auditoire mixte qui était composé à la fois de disciples et aussi de personnes qui n'adhéraient pas à l'enseignement de Jésus. Mais à partir de Luc 16, 15, donc quelques versets avant notre texte, c'est super important, Jésus s'adresse surtout à des pharisiens qui sont décrits, et un détail vraiment significatif, c'est qu'ils sont décrits comme des amis de l'argent. Ces pharisiens-là, qui tournaient Jésus en dérision, d'après Luc 16, 14. Alors, il est relativement facile de comprendre ce que Jésus est en train de leur dire par notre texte, par cette parabole. Vous riez maintenant, vous vous moquez de moi, vous qui aimez l'argent, mais quand la mort va vous surprendre à l'improviste, vous ne rigolerez plus. Alors, si vous voulez éviter le pire, de grâce, repentez-vous. Repentez-vous, je vous en supplie. Et ce qui est extraordinaire dans cette situation, c'est que ce qui est impossible dans le monde de la parabole reste possible sur le terrain. Dans la parabole, Lazare ne peut pas retourner sur terre pour avertir les cinq frères, mais par la bouche de Jésus, l'avertissement que l'homme riche voudrait tant transmettre à ses proches, il vient effectivement d'être lancé aux vivants qui écoutent Jésus, à ses auditeurs pour qui il n'est pas encore trop tard. Alors si quelqu'un parmi nous ce matin se sentait plus proche des auditeurs non chrétiens de Jésus que des disciples, eh bien j'invite cette personne à entendre de la bouche de Jésus un avertissement sévère mais bienveillant. Un avertissement plein de compassion directement de la bouche de Jésus. C'est avec grande compassion, c'est avec beaucoup d'amour que Jésus parlait à ses pharisiens et qu'il te parle peut-être aujourd'hui et qu'il t'invite à ton tour à la repentance, à changer d'attitude si tu te trouves dans la même situation. Si tu cherches ta propre sécurité dans l'argent, dans les biens matériels, plutôt qu'en Jésus-Christ. Et cela nous amène à une troisième question. Quel est le message de Dieu pour les lecteurs de Luc? Et nous faisons partie des lecteurs. Alors si on peut comprendre assez facilement quelle était l'intention de Jésus pour ses premiers auditeurs, les pharisiens décrits comme des amis de l'argent, je dirais que c'est un peu plus délicat de discerner l'intention de Luc vis-à-vis de ses premiers lecteurs, dont la plupart étaient des chrétiens qui n'étaient pas des juifs, des chrétiens d'origine non-juive, donc très différents des pharisiens. Déjà, ils ne sont pas juifs, ce ne sont pas des enfants d'Abraham dans ce sens-là, et surtout, ce sont des disciples de Jésus, contrairement aux riches de la parabole. Alors, qu'est-ce que Luc veut leur dire et qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin par ce texte ? Nous qui sommes disciples de Jésus. J'ai trois pistes d'application. Première piste, ne suivons pas l'exemple de l'homme riche de la parabole. C'est peut-être la plus évidente. Notre passage s'inscrit dans un chapitre, en Luc 16, qui est consacré au thème de la gestion de l'argent pour le disciple de Jésus. Et je ne vais pas m'attarder sur les autres passages, mais je voudrais quand même relever une parole claire de Jésus en Luc 16, verset 13. Jésus dit à ses disciples, « Aucun domestique, aucun serviteur ne peut être esclave de deux maîtres, ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon, Mammon étant la divinité de la richesse. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ? À peine quelques versets avant notre parabole. Et qu'est-ce que Luc est en train de dire à ses lecteurs chrétiens ? Qu'il nous faut continuellement choisir notre maître. Dieu ou Mammon ? L'argent. L'homme riche de notre parabole, lui, alors il a fait le mauvais choix. C'est un exemple qui montre bien ce que le disciple de Jésus ne doit surtout pas faire. C'est un contre-exemple. Ce que le disciple ne doit pas faire, c'est quoi ? C'est d'aimer Mammon, c'est de s'attacher à l'argent plutôt qu'à Dieu. Si on est disciple de Jésus, Luc et Dieu et Jésus nous disent d'une même voix ce matin, voici ce que vous ne devez pas faire avec votre argent et vos biens. L'homme riche faisait la fête chaque jour et menait brillante vie. Dieu nous dit, ne faites pas de la jouissance de la vie terrestre votre objectif premier, votre but principal dans la vie, votre idole. Et c'est un danger. Et ça va nous obliger à nager à contre-courant de notre société qui veut plutôt nous entraîner dans cette direction. L'homme riche n'a jamais invité Lazare à entrer chez lui. Il ne l'a jamais fait bénéficier de sa richesse. Alors Dieu nous dit, indirectement, Dieu nous dit, utilisez vos biens pour aider les plus démunis. Soyez généreux, soyez attentifs aux besoins des autres chrétiens, comme par exemple l'a été Tabitha en Actes 9, 36. Cette femme qui faisait beaucoup de bien et qui donnait de son argent aux autres. Ou comme Lydie, cette riche marchande de pourpre, une femme d'affaires qui était connue pour son hospitalité en Actes 16. On voit qu'elle utilisait sa maison pour bénir l'Église. Et Luc, il est l'auteur aussi des Actes. Alors ces deux femmes sont des exemples positifs de disciples à imiter sur le plan financier. Ensuite, l'homme riche s'habillait de pourpre et de fin lin. Dieu nous dit, n'utilisez pas votre argent et vos biens pour vous convaincre de votre supériorité, pour vous péter les bretelles, pour vous mettre en avant, pour pouvoir regarder les autres de haut, pour vous élever. Dans le film français Le Capital, sorti il y a quelques années, Gad Elmaleh incarne un grand patron de banque ambitieux qui est passionné d'argent, qui est cynique, qui est assoiffé de pouvoir et de profit et qui est prêt à licencier, mais tout à fait froidement, un grand nombre d'employés pour faire plus d'argent. Alors, je n'ai pas vu le film, mais en écoutant une fois Gad en parler dans un reportage, je trouve que son personnage ressemble étrangement à l'homme riche de la parabole de Jésus. Il aime bien dire, dans le film, « J'enrichis les riches, j'appauvris les pauvres, je suis un banquier normal. » Et heureusement, il y a aussi des banquiers anormaux dans la vie, notamment des chrétiens. C'est vrai que pendant 8 ans, je vivais tout près de Genève, où beaucoup de personnes travaillent dans le domaine financier. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent aussi dans cette branche. Et c'est formidable, c'est important, c'est une bonne chose. Il faut des chrétiens aussi dans ce domaine-là. Mais le personnage de Gad dit aussi ceci, et là, ça nous concerne tous, qu'on soit banquier ou pas. Il dit « Je veux de l'argent parce qu'il en faut pour être respecté. » Je veux de l'argent parce qu'il en faut pour être respecté. Et d'après Gad, cet homme dans le film, il est toujours en train de se comparer aux autres. Et ça, c'est un danger dans le Québec d'aujourd'hui. De vouloir se comparer sans cesse aux autres et de vouloir bien paraître grâce à nos biens. Le pauvre Lazare, dont on sait peu de choses, lui, il est un modèle à suivre pour les disciples de Jésus et pour les lecteurs de Luc, parce que même si on en sait très peu à son sujet, on connaît l'essentiel. Son nom signifie « Dieu aide » ou « Dieu porte secours ». Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui, sur le plan financier, dépend de Dieu. Il s'en remet à Dieu. Il lui fait confiance. S'il a des biens importants, il ne s'appuie pas sur ses biens. Il ne met pas sa confiance dans son compte bancaire. Message important, sans doute aussi pour l'excellent Théophile, le chrétien sans doute aisé à qui est adressé tout l'Évangile selon Luc, d'après Luc 1, verset 3. Mais le message de Luc ne se limite pas à ça. Deuxième piste d'application, évangélisons les personnes qui sont convaincues de ne manquer de rien. Pourquoi ? Parce que l'issue d'une vie de jouissance égoïste, c'est une issue fatale et irréversible. La réalité de l'enfer n'est certainement pas la seule motivation pour l'évangélisation, mais elle fait partie des motivations bibliques. On ne peut pas non plus l'occulter, cette motivation-là. Richard Baxter, au XVIIe siècle, dans son livre « Sur le ciel », parle aussi de l'enfer. Quelques citations. « Je regarde comme un spectacle des plus affligeants en ce monde que la mort de l'incroyant. Et j'ai de la peine à penser à sa séparation irrémédiable d'avec ses espérances. Dans quel triste état il entre dans l'autre monde. » Une autre citation, « Qui croirait avoir la tranquillité des incroyants qu'ils tomberont bientôt dans les flammes éternelles ? Ils craignent bien moins l'enfer pour la plupart que le plus modeste de ceux qui y échapperont. » Les disciples de Jésus qui y échapperont. Autre citation, « L'incroyant regarde les plaisirs des sens comme son souverain bien, son ciel, son Dieu, mais il les perdra. » Comme il perdra le vrai Dieu lui-même. Et une dernière citation de Baxter. En enfer, le riche ne porte plus la pourpre ni la soie, allusion à cette parabole. Il ne se nourrit plus chaque jour dans le faste. L'admiration des spectateurs a disparu et l'amusement a fait place au chagrin. Quel changement digne d'éteindre la convoitise. Alors certes, Luc le montre par cette parabole et aussi par d'autres textes, et on l'observe encore aujourd'hui, les personnes qui sont dans le besoin ont généralement plus de facilité à accepter l'aide de Dieu que les individus qui ont l'habitude de se suffire à eux-mêmes. Mais au fond, ça n'est pas surtout une question de richesse ou de pauvreté. La richesse ne fait qu'accentuer pour certains, pas pour tous, mais pour certains, un état d'esprit qui est fondamentalement incompatible avec l'accueil de l'Évangile et qui se résume tout simplement par l'égoïsme, par l'orgueil, par la fierté. Et la pauvreté, eh bien, elle facilite assez souvent, alors pas toujours, mais elle facilite assez souvent une attitude d'humilité, sans laquelle on a beaucoup de mal à se charger de sa croix pour suivre Jésus. Le sociologue français Sébastien Fatt vient de présenter sur son blog les dernières statistiques de la répartition des protestants évangéliques dans le monde, en tout cas selon des critères sociologiques, c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, on n'a pas accès au cœur des gens, mais d'après certains critères, d'après des estimations sur le plan sociologique, parmi les 660 millions d'évangéliques à l'échelle mondiale en 2020, une très large majorité se situe dans les pays les plus pauvres. Par exemple, sur le continent africain, on compte environ 185 millions de chrétiens évangéliques, d'après lui. En Amérique du Sud, 133 millions, alors qu'en Amérique du Nord, c'est 97 millions. Et plus largement, le mouvement évangélique est en perte de vitesse en Occident, alors qu'il est en plein essor dans les pays défavorisés. Néanmoins, et malgré cette tendance générale qu'on ne peut pas nier, et qui ne nous surprend pas d'ailleurs, évangélisons aussi les personnes qui sont convaincues de ne manquer de rien. Parce que si nous ne le faisons pas, un jour, ces personnes manqueront véritablement de tout. De tout ce qui compte vraiment. Par notre parabole, Luc veut dire à ses lecteurs chrétiens que l'évangélisation des gens aisés en vaut la peine, puisque Jésus lui-même l'a pratiqué. Il le fait ici. Mais ce ne sera pas facile. Au même titre d'ailleurs que l'évangélisation de toute personne, riche ou non, qui croit trop en elle-même, hein, qui pense n'avoir besoin d'aucune aide extérieure. Toute personne qui s'élève constamment, qui entend tous les jours la société lui dire « t'es génial, t'es peut-être pas parfait, mais au fond de toi, t'es vraiment une bonne personne », pas évident de reconnaître son besoin d'aide quand on entend constamment ces messages. Laura, mon épouse, avait un échange intéressant cette semaine avec une bonne amie qui n'est pas croyante, et voilà, elle se parle de manière assez directe, c'est vraiment beau, dans un sens comme dans l'autre, je dirais, et cette personne lui disait « je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, je lutte avec la honte et la culpabilité. Et pourtant, je suis une bonne personne. » Et le roi lui a dit, « Tu veux que je te dise ce que dit la Bible par rapport à ça ? Je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. » Parce qu'il n'y a pas de bonne personne. On a tous besoin d'aide, on a besoin du pardon de Jésus, quelle que soit notre situation. Troisième piste, contemplons Jésus, notre Maître. Et je suis tellement heureux ce matin de terminer avec ça, parce que pour moi, c'est le sommet de toute cette réflexion. C'est l'application la plus importante et c'est celle qui rend possible les deux premières pistes d'application. Si ce texte nous apprend beaucoup de choses sur le disciple de Jésus, ce texte nous parle aussi du maître à la suite duquel marche le disciple. Les deux personnages de la parabole pointent vers Jésus, chacun à sa manière. L'homme riche, c'est l'anti-Jésus, l'opposé du Sauveur. Tout ce qu'il aurait dû faire mais n'a jamais fait, Jésus l'a fait au centuple. Imaginez! Au moment même où Jésus raconte cette parabole, il est en route vers Jérusalem, où il sera crucifié. Pourquoi ? Par compassion pour les misérables pécheurs que nous sommes. Il est mort pour pardonner nos péchés, afin que nous ne passions pas l'éternité du mauvais côté du portail. Il ne s'est pas contenté de partager ses ressources un peu avec nous, comme l'homme riche aurait pu le faire avec Lazare. mais il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de nous enrichir et pour nous faire entrer avec lui sur le sein d'Abraham, dans le paradis. Contemplons Jésus en méditant sur l'homme riche de notre parabole, qui est non seulement l'antidisciple, mais qui est aussi l'anti-Jésus. Donc Jésus est tout le contraire. Et bien entendu, Jésus est le Lazare par excellence. Celui qui jusqu'au bout s'est écrié « Dieu, aide, aide-moi, interviens ». Il a fait parfaitement confiance à Dieu sur le plan matériel pendant tout son ministère, mais au-delà de ça, il a confié sa vie même à Dieu. Juste avant de mourir, il a prié en Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu aide. » Il a fait confiance au Père. Et Dieu l'a exaucé, puisque le troisième jour, il l'a ressuscité. Et je rappelle qu'au verset 31 de notre texte, Jésus prédit sa propre résurrection. En route vers Jérusalem, il sait qu'il devra bientôt s'abandonner totalement dans les mains du Père et devenir ainsi, lui Jésus, le parfait Lazare. Contemplons Jésus. Pourquoi ? Parce que lui seul peut nous rendre de plus en plus généreux et sensibles aux besoins des autres. Ce n'est pas naturel, hein, moi je plaide coupable. Je me prêche à moi-même ce matin, ce n'est pas naturel. Jésus doit faire cette œuvre en moi. Jésus veut et peut nous transformer à ce titre aussi, comme dans bien d'autres domaines. Il peut nous libérer d'un égoïsme qui nous colle à la peau et qui contrôle notre cœur beaucoup trop souvent, alors qu'on est ses disciples. Mais on compte sur lui. On compte sur lui pour le faire en nous. Et lui seul, Jésus, peut nous apprendre à faire confiance à Dieu en toutes choses, sans nous inquiéter du lendemain, y compris sur le plan matériel. Prions. Père, ce matin, nous voulons surtout contempler et admirer Jésus. Merci pour toute la compassion dont il a fait preuve envers nous. Il a vu à quel point nous étions dans la misère, dans le besoin spirituellement parlant, et à plusieurs titres, et il est intervenu pour nous sauver, pour pardonner nos péchés et pour nous changer. Merci Père. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Marcher au cours des prochaines semaines, des prochains mois, en nous disant « Dieu, prends soin de moi, je n'ai pas à m'inquiéter ». Soit sur le plan financier ou dans d'autres domaines de ma vie personnelle. Je sais que tu es mon bon berger, Père, que tu prends soin de moi et je compte sur toi comme Jésus a compté sur toi, sur la croix.